Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici rendus déjà à notre 5e conférence. Je vais donc faire une lecture de la parole de Dieu sur laquelle nous aurons notre prédication de ce soir. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc. Nous lisons au chapitre 4. Nous lisons des versets 16 à 20. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Dieu fasse que nos regards se fixent aussi sur lui ce soir et que sa parole ne soit ce soir une parole de délivrance et de libération. Comme il vous l'a été dit, donc, ce soir, nous traitons du sujet suivant, une génération en mal de liberté. Au texte entendu tout à l'heure, nous en ajouterons un autre. Se situant dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, l'apôtre écrit ce qui suit, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et nous poursuivons au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il semble que la liberté soit aujourd'hui au cœur de nos revendications. Des individus, des peuples entiers tentent de secouer tout leur joug. Des slogans tels que « Paix, amour, liberté », « Ni Dieu, ni maître ». Ni patron, ni État. Il est interdit d'interdire. Il semble que de tels slogans nous sont constamment aujourd'hui jetés en pâture à notre jeunesse pour la conduire à la révolte. Un vent de liberté, un vent de libération, un vent de libéralisation souffle sur notre planète. On veut être et vivre libre, même s'il fallait user de la violence pour y parvenir. Et aujourd'hui, nous nous sentons à ce point esclaves que nous sommes prêts à tout casser pour nous rendre libres. Nous nous souvenons de ce qu'une certaine Madame Roland, du temps de la Révolution française, dans les années 1790, a dit, tandis qu'elle était là, sur l'échafaud, pour se faire guillotiner, cette Madame Roland s'était écriée « Liberté, liberté, que de crimes n'avons-nous pas commis en ton nom ?» Seulement voilà ce vent de liberté n'est la plupart du temps qu'un vent de licence et de permission qui n'a rien à faire avec la vraie liberté. Ainsi voulons-nous aujourd'hui, et je pense que c'est le cas aussi dans votre belle Suisse, ainsi voulons-nous aujourd'hui l'amour libre, le sexe libre. Nous voulons l'avortement libre. Savez-vous que dans la seule ville de Washington, en une année, on a compté bien plus d'avortements enregistrés que de naissances. En une année, l'avortement libre, nous voulons la drogue libre. Nous voulons les mœurs libres d'une façon générale. Nous voulons tout libérer. En France, avec l'ancien président Giscard d'Estaing, nous avons commencé de libéraliser sérieusement nos mœurs. Et ainsi, par exemple, nous avons libéré le livre. Et cette libération du livre a infesté nos kiosques d'une littérature cochon et qui nous fait tant de mal. Voilà ce que donne la libération du livre. Nous avons libéré nos loyers. Nos loyers sont libres en France. Nous en sommes même arrivés à libérer le beefsteak. Je ne sais pas si vous le savez, mais le beefsteak est libre en France. Mais depuis qu'il est libre, nous n'avons jamais autant mangé de vaches enragées. Ah, je puis vous le dire, parce qu'il devient de plus en plus inaccessible. Alors on veut tout libérer, absolument tout. On veut libérer le travail et travailler quand ça nous chante. On a voulu aussi libérer la musique. Mais quelle cacophonie! Et nous pourrions ainsi continuer. Mais quand tout est libéré, c'est l'homme qui se retrouve esclave. Nous avons, tout près de chez nous, à Corbeil, dans la région parisienne, un zoo. Un zoo assez particulier, en ce sens que les animaux s'y trouvent en liberté, tandis que les hommes s'y trouvent en cage. Je ne sais pas s'il vous est arrivé, par exemple, de visiter le zoo de Saint-Vrain ou de Thouary. Combien êtes-vous à avoir visité l'un de ces zoos? Levez la main pour voir, mais oui, quelques-uns ici ont visité ce genre de zoo assez particulier. Si vous veniez dans la région parisienne, eh bien faites-moi le plaisir de vous offrir une visite dans un tel zoo. Les hommes y sont en cage et les fauves en liberté. En entrant dans ces eaux, avec la voiture, toutes sortes de recommandations nous sont données, bien sûr, surtout dans l'espace où évoluent les fauves. Il nous est par exemple interdit de descendre pour voir comment nos pneus se comportent. Ou il nous est aussi interdit d'aller voir si nous avons toujours notre roue de secours. Les fauves sont là, autour de la voiture. Tandis que, pour ce qui nous concerne, nous restons enfermés dans ces mêmes voitures jusqu'au terme de l'itinéraire indiqué. Eh bien, voyez-vous, ces eaux m'ont fait comprendre ce qu'il peut arriver chez l'homme qui veut libérer ses instincts. Ces fauves que sont ces instincts, nos instincts sont comme des fauves en nous. Et quand alors nous les libérons, ces fauves nous tiennent, ils nous possèdent, ils nous enferment, ils nous emprisonnent. Et puis il semble que nous ne sachions vraiment pas de quoi nous parlons quand nous parlons de liberté. C'est quoi la liberté? Liberté, anarchie, licence, Libertinage, indépendance, tout est dans le même sac. Et on ne fait plus la différence. Vladimir Lénine, qui a été l'un des auteurs de la Révolution russe, a écrit ce qui suit « Tant que l'État existe, il n'y aura pas de liberté. Et quand la liberté règnera, il n'y aura plus d'État. » Est-ce que la liberté peut se concevoir de cette manière-là? Et puis, ils prolifèrent ces marchands de liberté qui promettent aujourd'hui aux hommes la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, comme dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 2 et au verset 19. Et puis, soyons réalistes. Bien que la vie soit essentiellement faite de choix plus ou moins importants, il est en réalité bien des choses que nous n'avons pas choisies en venant ici-bas, dans lesquelles nous sommes entrés, bon gré, mal gré, et que nous vivons, bon gré, mal gré. À commencer par la naissance. Lequel d'entre nous ici a choisi de naître? Allez, debout les hommes. Nous n'avons pas choisi de naître. Pourtant, la naissance est une affaire bougrement importante, engageant toute une vie, toute une existence. Et on ne nous a pas consultés. André Chénier, le poète français des années 1700, s'en était révolté en ces termes. Fûmes-nous consultés en recevant la vie? Qui de nous peut choisir son peuple? Sa race, c'est toujours lui qui parle. Nos parents, à leur gré, font un juif, un chrétien, un musulman. Nous n'avons pas choisi de naître. Nous n'avons pas choisi de naître suisse, français ou autre. Et il est certain que des millions d'enfants du tiers-monde aujourd'hui auraient préféré naître suisse, américain, suédois, à la rigueur français. Hein, si le choix leur avait été donné, ils n'ont pas choisi de naître, ils n'ont pas choisi leur race. Ils n'ont pas choisi de vivre comme nous n'avons pas choisi de vivre, de naître. Nous n'avons pas non plus choisi la couleur de notre peau. Et c'est pour la vie, cela. On a la peau blanche pour la vie, la peau noire pour la vie, la peau rouge pour la vie, la peau jaune pour la vie. La Bible dit que l'Éthiopien, un Éthiopien, ne peut pas changer sa peau. Et puis nous n'avons pas non plus choisi notre sexe. Nous n'avons qu'une existence sur cette terre. Et on ne nous a pas demandé de choisir notre sexe, quand même. Alors, si vous êtes du sexe féminin, vous ne serez jamais homme. Si vous êtes du sexe masculin, vous ne serez jamais femme. On ne nous a pas consulté. Ceci me fait penser à une jeune dame qui, à Montréal, au terme d'un rallye de jeunesse qui avait réuni quelques 900 jeunes dans une grande salle de la ville de Montréal, une jeune dame était venue vers moi pour me dire « Alain Joaquier, moi j'en ai après Dieu, je lui en veux. » Mais pourquoi, madame, pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il a fait de moi une femme tandis que j'aurais fait un homme comme ça. Je lui ai dit « Écoutez, madame, restez calme. Si vous n'avez pas pu choisir votre sexe, c'est que quelqu'un l'a choisi pour vous. Dieu. Parce qu'il a un plan pour vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et puis, confiez-vous en Dieu pour le reste.
Il a un plan pour vous. Dieu ne se trompe pas.
Nous n'avons pas choisi notre caractère.
Comment est-il votre caractère?
Bon?
Mauvais?
N'est-il pas vrai que la plupart du temps, nous avons bon caractère et que si les choses ne vont pas, ça n'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de ceux qui nous entourent.
La faute d'autrui, mais pour nous, hein. Ah, si tous étaient comme nous!
Le monde entier copierait la Suisse, hein.
Pour notre malheur, précisément. Parce que la plupart du temps, nous sommes aveuglés sur notre propre condition. Si vous voulez savoir ce qu'est le caractère d'Alain Chouaquet, il ne faut pas le demander à Alain Chouaquet, demandez-le à ses enfants, à son épouse.
Et puis, nous n'avons pas choisi notre religion.
Nous sommes catholiques parce que nos ancêtres l'étaient. Nous sommes protestants parce que nos ancêtres l'étaient. Nous sommes musulmans parce que nos ancêtres l'étaient. Nous n'avons pas choisi notre religion la plupart du temps. Nous avons hérité de croyances, de traditions auxquelles nous adhérons de manière sentimentale ou intellectuelle, sans souvent chercher plus loin. Et puis nous nous disons libres.
Et la mort, pour finir. La mort qui, la plupart du temps, ne se moque de savoir si nous la voulons en blanc, en noir ou en couleur. Brigitte Bardot, dans une de ses chansons, dit ce qui suit. « Je voudrais mourir en moto, les cheveux au vent. »
Est-ce que c'est une belle mort que de mourir en moto ?
Pour nous qui avons vu des accidents de moto, mais ça peut être horrible à voir. Oui, nous voudrions chacun passer par une belle mort. Mais un académicien français du nom de Marcel Achard, mort il y a peu de temps, a dit ce qui suit, « Il n'y a pas de belle mort, il n'y en a pas. La mort est toujours laide. Et c'est vrai qu'elle est laide. »
Il y a donc, mes amis, hein, pour être réaliste toujours, il y a donc tout un déterminisme, il y a tout un destin qui fait que précisément notre liberté est très relative, très relative. Nous sommes comme encadrés d'un destin irrésistible. Nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi notre race, nous n'avons pas choisi la couleur de notre peau, nous n'avons pas choisi notre sexe. Et tout ceci fait que notre liberté pour finir. Mais il n'empêche que ce destin est souple, dans une certaine mesure, qu'il autorise certains choix. Alors nous pouvons choisir une carrière, par exemple, nous pouvons choisir un époux, une épouse. Il y a bien des choix que nous pouvons faire, mais ces choix peuvent faire de nous, de notre vie, un échec ou une réussite. Ces choix que nous pouvons encore faire, que ce destin nous accorde, ces choix peuvent nous conduire à la catastrophe, ou bien à une vie réussie. Ces choix que nous pouvons encore faire nous rendent responsables. Et c'est là une des grandes vérités bibliques, qu'il n'y a pas de vraie liberté sans responsabilité. Or, aujourd'hui, nous vivons au sein d'une génération qui veut la liberté sans la responsabilité. D'où précisément tout ce désordre que nous connaissons. Mais il n'y a pas d'authentique, de vraie liberté sans responsabilité. Nicoletta, que j'ai eu l'occasion de citer au cours des soirées passées, dit dans l'une de ses chansons, vous savez que Nicoletta est anciennement prostituée, passée à la chanson il y a quelques années, Nicoletta dit ce qui suit, « J'ai eu des plaisirs d'occasion, mais quand arrive l'addition, il faut payer, il faut payer. » Et Pierre Daninos, que je citais hier soir à propos d'une génération en mal de vivre, dit toujours dans ce livre que j'ai cité, le 36e dessous, Pierre Daninos étant un humoriste, Pierre Daninos dit ce qui suit, « Tout à coup, mon existence m'apparaît comme une immense addition à payer. » Mes amis, qu'il est dommage de passer à côté des plans de Dieu, des plans que Dieu a pour nous. Il n'y a pas de vraie liberté sans responsabilité. Il n'y a pas non plus de vraie liberté sans amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment, c'est-à-dire selon la chair. Et puis, par amour, dans cette liberté, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Il n'y a pas de véritable liberté sans responsabilité, il n'y en a pas non plus sans amour. Et parce qu'il n'y a pas de vraie liberté sans responsabilité, et parce qu'il n'y a pas de vraie liberté sans amour, un jour Dieu a donné aux hommes les lois de la liberté. Les lois de la liberté qui forment ce décalogue que nous avons certainement appris lorsque nous étions enfants, sur les bancs de l'école du dimanche ou lorsque nous étions jeunes. Dieu a donné un jour aux hommes les lois de la liberté. Et ces lois-là ne nous ont pas été données par Dieu pour nous empêcher de vivre, mais pour nous aider à vivre de la meilleure manière, de la meilleure façon, comme Dieu voudrait que nous vivions. Dieu nous a créés libres, la Bible le dit. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions n'importe comment. Être libre n'est pas vivre n'importe comment. Libre, oui, a dit Dieu, mais pas n'importe comment. Et voilà pourquoi ces lois de la liberté, non pas pour nous empêcher d'être libres, non pas pour nous empêcher de vivre, mais simplement pour savoir comment user de cette liberté qu'il nous donne. Mais ces êtres que nous sommes, très enclins à la révolte, dès qu'il s'agit de lois, ne veulent plus rien entendre. Dès qu'il s'agit de loi, nous ne voulons plus rien entendre. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, simplement qu'on nous parle de loi, nous fait hérisser les cheveux sur notre tête, quand on en a bien sûr. C'est la preuve que nous sommes en révolte. En nous donnant ces lois, c'est comme si Dieu nous avait dit, voici un code de vie destiné à faire votre bonheur sur cette terre. Voici un code de vie pour vous permettre de voir comment vivre cette liberté que je vous accorde. Et pour mieux expliquer ce que représentent les lois de Dieu, le décalogue, venons-en quelques instants aux lois de la route. Il y a des lois de la route qui sont d'ailleurs des lois internationales et qui nous obligent à rouler de telle ou telle façon. Sur la route, nous sommes obligés de mettre en pratique ce que nous avons appris lors des leçons. Des leçons de conduite. Mais vous ne pouvez un moment imaginer la route sans loi. Sans code, c'est impensable. Imaginons que ce soir, par exemple, le gouvernement helvétique décidait l'abolition totale et définitive du code de la route. En d'autres termes, au sortir de cette salle tout à l'heure, vous pourriez, en prenant votre voiture, rouler à droite ou à gauche, à loisir, rouler sur les trottoirs, entrer dans les grands magasins avec votre voiture. Vous pourriez tout faire. Brûler les feux rouges, plus de feux rouges, ni de feux verts, bien sûr, ni de feux tout court. Vous êtes libre sur la route, franchement. Vous oseriez prendre le volant de votre voiture tout à l'heure? En tout cas, pour ce qui me concerne, je rentre à pied. Et encore, pas tout à fait rassuré. La route ne peut pas se passer de loi. La vie non plus. La vie ne peut pas se passer de loi. Et Dieu, en nous donnant ses lois, eh bien, n'a pas cherché à nous empêcher de vivre, mais ces lois nous ont été données pour nous aider à vivre. Comme les lois de la route sont là pour nous aider à rouler, les lois de la route ne sont pas là pour nous empêcher de rouler. Elles sont là pour notre bonheur sur la route. Les lois de Dieu nous ont été données pour notre bonheur dans cette vie. Voilà comment il faut comprendre les lois de Dieu, et pas autrement. Et puis, ne trouvez-vous pas étrange qu'après avoir tiré, sorti d'un esclavage totalitaire tout un peuple, le peuple d'Israël, Dieu lui ait immédiatement après donné des lois? Après l'avoir rendu libre de cet esclavage en Égypte, Dieu a donné des lois à ce peuple, parce que la liberté ne peut pas se passer de loi. La liberté sans loi, c'est de l'anarchie. C'est tout ce que vous voulez, sauf la liberté vraiment. Et Montesquieu, qui a été un magistrat français des années passées, a dit ce qui suit: la liberté, c'est le droit, simplement, de faire ce que les lois permettent. C'est ça, la liberté. Et nous sommes libres quand nous entrons dans ces lois de Dieu pour les mettre en pratique. Ces lois étant appelées les lois de la liberté. Et essayons de voir quelques instants de quoi traitent ces lois, pour commencer. De qui Dieu parle-t-il dans le Décalogue, pour commencer? Dieu parle de lui-même. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu donc commence par parler de lui-même. Puis ensuite, il parle du travail. Ensuite, de la famille. Et pour finir, du prochain. De sorte que le Décalogue traite de toutes les choses de la vie. Mais en tête de toutes ces choses, Dieu a parlé de lui. Parce que dans l'existence de tout homme, Dieu devrait occuper la première place. Et la Bible dit même que violer ces lois de liberté, c'est précisément péché. Péché, c'est violer les lois de la liberté, les lois de Dieu, le Décalogue. Péché, c'est donc perdre sa liberté. Je ne sais pas si nous l'avons saisi, cela. Péché, c'est ne plus être libre. Le péché remet constamment en question notre liberté. Parce que le péché viole les lois de la liberté. Il est drôle que, pour ce qui nous concerne la plupart du temps, nous voyons les choses tout autrement. C'est la preuve qu'il y a en nous quelque chose qui est dérangé. Péché, c'est donc violer les lois de Dieu, les lois de la liberté. Péché, c'est avoir perdu sa liberté. Et la Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Donc nous avons tous perdu notre liberté. Et nous saisissons alors tout à coup le sens de la venue du Christ sur cette terre, lequel Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, « Si je vous affranchis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le Christ est venu nous rendre cette liberté que nous avons perdue à cause de notre péché. Il est venu faire de nous des hommes libres, nous donnant la force d'accomplir la loi de Dieu en habitant en nous, en vivant en nous. Le Christ n'est jamais venu abolir la loi. Il l'a dit lui-même, il est venu pour l'accomplir, cette loi. Et il est venu montrer la vie que Dieu attendait, l'existence que Dieu attendait de chacun de nous. Il est venu nous dire comment Dieu attendait que nous la vivions, cette existence. Et nous sommes passés à côté, complètement à côté. Nous le disions le premier soir. Péché, c'est donc perdre sa liberté. Ne pensez pas qu'en péchant, vous vous rendez libre. Et je m'adresse surtout aux jeunes. Vous enfoncez davantage dans la boue du péché et puis dans l'esclavage du péché. La liberté donc ne peut pas se passer de loi. Elle ne peut pas se passer des lois morales de Dieu. Comme d'ailleurs au plan physique, nous ne pouvons pas nous passer de loi. Nous sommes entrés dans un monde physique qui est régi par des lois. Et si nous tentions de nous soustraire à ces lois physiques qui régissent ce monde physique, ben, nous pourrions risquer de mourir. Il y a par exemple cette loi de la pesanteur à laquelle personne n'échappe et qui veut que si je lâche ce livre, il tombe. C'est une loi. Maintenant, essayez de monter au plus haut étage d'un immeuble ici, à Tavannes ou ailleurs, pour vous jeter en bas en criant « Je suis libre !» Vous verriez le résultat de votre liberté. Il y a des lois physiques auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire sans risquer de mourir. Et parce que nous nous sommes soustraits aux lois de Dieu, en péchant, au plan spirituel, nous sommes déjà morts. La Bible le dit. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Le Christ est venu donc pour nous tirer d'affaire. Et de même que nous ne pouvons pas nous passer des lois physiques qui régissent notre monde physique, nous ne pouvons pas nous passer des lois morales qui régissent le monde, l'univers moral, sans risquer de mourir. Et nous avons tous péché, nous avons tous violé ces lois. Voilà pourquoi nous sommes tous morts devant Dieu, au plan spirituel. Ah, le péché! C'est encore l'huile trouble-faite, depuis le premier soir nous en parlons. Le péché! Jésus a dit ce qui suit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, la corruption sexuelle, les meurtres, les vols, l'avarice, la méchanceté, l'orgueil, la folie, etc. C'est du dedans de notre cœur que sortent toutes ces choses. Et Jésus a voulu simplement dire ce qui suit. Il existe en chacun de nous, qui que nous soyons, Suisses, Français ou autres, il existe dans nos profondeurs des forces énormes que rien ne peut mesurer, des forces qui ne peuvent être domptées, des forces que nous ne pouvons apprivoiser, des forces qui peut-être n'apparaissent pas couramment, mais qui se saisissent d'un climat, d'une circonstance, qui se saisissent d'une ambiance, d'une atmosphère, d'une occasion pour se libérer de manière irrésistible, pour nous entraîner au mal et parfois même au malheur. Il y a ces forces de corruption, d'esclavage et de péché en chaque homme. Ces forces sont en vous comme elles sont en moi. Et c'est pour l'existence de ces forces que le Christ est venu, voilà 2000 ans. Contre ces forces, ni la science, ni la philosophie, ni même une bonne morale ou une bonne religion ne peut quelque chose. Ces forces sont en nous et ce sont des forces d'asservissement, des forces d'esclavage, c'est ça le péché. Que de fois, par exemple, il nous est arrivé de lever les bras au ciel en nous disant « Moi, je suis comme ça, pas autrement, je n'y peux rien. » C'était simplement avouer la présence de ces forces en nous, plus fortes que nous. Que nous ne pouvons pas détruire en nous. Savez-vous que la Bible, en parlant du péché, parle de seigneurie du péché? Savez-vous qu'en parlant du péché, la Bible parle d'empire du péché? Elle parle du règne du péché. Ah, le péché n'est pas du tout ce que nous pensons souvent. La Bible parle du totalitarisme, de l'impérialisme du péché. Tous sont sous l'empire du péché, dit-elle. Tous. Et c'est ce qui fit que le Christ vint vers nous, voilà 2000 ans, pour nous tirer d'affaire, pour venir à bout de ces forces d'esclavage qui nous tiennent. Il est venu briser nos chaînes. Il est venu pour nous rendre libres. Voilà pourquoi le Christ a dit, « Si je vous affranchis, vous serez réellement libres. » Et je rends le témoignage qu'il m'a rendu libre par la puissance de son sacrifice, par la puissance du calvaire, la puissance du sang versé à la croix. Félix Le Dantec, un homme de science des années passées en France, a écrit ce qui suit « L'homme est une marionnette conscience qui a l'illusion de la liberté ». Nous n'avons que l'illusion de la liberté. Seul le Christ nous rend véritablement libres. Mais pour beaucoup, nous nous savons dans toutes sortes de chaînes de servitude. Nous nous savons dans toutes sortes d'habitudes qui nous tiennent quotidiennement. Nous nous savons dans des passions qui nous font tant de mal, des passions cruelles. Seulement ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que nous en sommes arrivés la plupart du temps à aimer ce qui nous tue. Regardez l'alcoolique, il aime ce qui le tue. Regardez le drogué, il aime ce qui le tue, il ne peut pas s'en passer. Le monde entier, disait quelqu'un, désire la liberté, aspire à la liberté. Mais pourtant, chacun est amoureux de ses chaînes. Mais avons-nous perdu le sens? Il semble que nous ayons perdu le sens, littéralement. La vraie liberté est celle qui se définit par rapport à ces forces d'esclavage et de corruption qui sont en nous. La vraie liberté consiste à se dégager de ces forces. La vraie liberté consiste à sortir de son péché par la puissance de Christ et de son sacrifice. Un homme libre, c'est un homme capable de vivre intérieurement, dans sa vie, la liberté de Christ, lequel a été le seul homme libre que la terre ait jamais porté. La Bible dit que la fin de notre esclavage, c'est la mort, la perdition éternelle. Oh, que d'hommes, souffrant à l'heure qu'il est, de chaînes pesantes, de chaînes douloureuses, de chaînes qui les tuent. Il y a peu de temps, je discutais à Paris avec un chauffeur de taxi. Et ce chauffeur de taxi m'a dit ce qui suit, vous savez, monsieur, à cause du tiercé, j'ai le jeu dans la peau. Est-ce qu'on joue au tiercé en Suisse ? Oh, je veux croire que non. À cause du tiercé, j'ai dû vendre mon numéro de taxi. J'ai dû vendre ma maison. Pour jouer, je me suis ruiné. Mais je continue de jouer parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai le jeu dans la peau. Quelle chaîne ! Mais la chaîne, c'est peut-être aussi ces petits verres que nous descendons quotidiennement derrière la cravate et qui font qu'un jour, hein, nous ne pouvons plus nous en passer. Et alors que c'est tragique, hein, l'alcoolisme, ce pourfendeur de foyer, de maison. Dans un hôpital, il y a peu de temps, un homme se mourait du cancer du poumon. Et avant de mourir, il a brandi une cigarette et il a dit « Pendant 30 ans, j'en ai usé. La cigarette est mon maître, c'est elle qui me tue. Mais je l'ai aimé. Je l'ai aimé, quelle chaîne là encore. Et tant d'autres choses. Hein, nous pouvons ce soir peut-être être esclaves du sexe. Mais à la joie qui est, nous en avons un. Certes, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pas pour l'usage que nous en faisons la plupart du temps. Et aujourd'hui, quelle corruption au plan sexuel. Jusqu'aux déviations sexuelles dont nous ne nous avons pas parlé ce soir. Nous sommes peut-être esclaves du confort, de la mode. Vous en avez qui ne vivent que pour elle. La mode, le sport. Ah, le sport, le dimanche matin. Au lieu d'aller au culte, on se retrouve sur un stade. Pour faire du sport, il n'y a aucun mal à en faire. Seulement quand ça prend la place de Dieu, ça devient une chaîne. Et Alain Choquet en parle en connaissance de cause, parce que je ne vous l'ai pas dit, je ne pense pas. Mais Alain Chouaquet, lorsqu'il avait ses cheveux, tous ses cheveux et toutes ses dents, il était sportif. Au point qu'un jour, il a été sélectionné dans l'équipe junior de volleyball en France. Là, j'ai l'impression que je vous embouche un coin. Mais il ne m'en reste plus que les paroles, hein. Ne me provoquez pas sur un terrain de volley-ball, ça c'est du passé. Mais après ma conversion, j'avais continué de jouer au volley-ball. Et je disputais des coupes, des matchs le dimanche matin. Et un jour, Dieu m'a parlé. Alors je suis allé vers mon chef pour lui dire, à partir de ce jour, je ne fais plus partie de l'équipe de volley-ball. Je veux bien continuer l'entraînement. Je veux bien me tenir en forme, mais ne comptez plus sur moi pour les matchs du dimanche matin. Le Seigneur m'en avait donné la force. Ce fut difficile, très difficile, mais quelle joie ensuite dans cette obéissance. Tout ce qui, en nous, prend la place de Dieu devient une idole. Une chaîne. Voilà pourquoi Dieu a parlé de lui, pour commencer, dans les 10 commandements, dans le décalogue, parce qu'il veut en toute chose occuper la première place. Alors, qu'est-ce qui a triomphé de nous ce soir? La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce soir, vous devez savoir ce qui a triomphé de vous. C'est peut-être la voiture. La voiture dont vous ne pouvez pas vous passer, vous l'aimez. Au point de rêver d'elle. Vous en avez qui rêvent à leur voiture. C'est peut-être la moto. Vous en avez surtout des jeunes qui ne vivent que pour elle. Alors la moto prend dans leur cœur la place de Dieu. Et ça peut aller loin ainsi. Il n'est pas interdit d'avoir une moto, de faire de la moto, mais sitôt que la moto prend dans notre cœur la place de Dieu, quel drame! Dieu veut donc prendre chez nous, tenir chez nous, la première place. Et voilà pourquoi le Christ est venu. Et puis l'argent, quelle puissance!
Quand les hommes et les femmes de notre génération sont questionnés de façon personnelle sur l'argent, eh bien, ils nous donnent l'impression de ne pas l'aimer. Questionnez donc des amis autour de vous sur l'argent. Monsieur, aimez-vous l'argent? Oh, surtout pas! C'est ce qui fait notre malheur, mais je vous pose la question. Après quoi court-on? Après quoi? Et comme argent, sexe et violence ont toujours fait bon ménage, on ne s'étonne plus du siècle dans lequel nous vivons et de ses circonstances. Quel tyran que l'argent! Voilà un Dieu assoiffé de sacrifices qui règne sur nos soucis, nos tourments, et que de tant d'énergie, de sacrifices lui sont quotidiennement offerts en sacrifice, en offrande. Il ne laisse aucun répit à ceux qui en ont fait leur Dieu. Surtout en France en ce moment. Et nous pourrions ainsi continuer. Le Christ est venu donc pour nous rendre libres. C'est peut-être la drogue qui nous enchaîne ce soir. Ou bien une habitude cachée dont nous aurions honte en public et qui nous tient. C'est peut-être la chaîne du spiritisme qui nous tient. Et de l'occultisme. J'ai été effrayé d'entendre les chiffres concernant l'occultisme en France à l'heure actuelle. Lors du dernier congrès des magiciens et des sorciers et des spirites à Paris. 15 millions de Français consultent régulièrement les astrologues. Le chiffre de la profession en France est de 5 milliards de nos francs actuels, pour ne plus dire lourds, parce que, vous savez, nos francs actuels en France, 5 milliards. Alors là, j'ai envie de crier au gouvernement français de quoi combler le déficit de notre sécurité sociale. À peu près, à 1 million près, 1 milliard près, on comblerait le déficit de notre sécurité sociale. C'est peut-être la chaîne du spiritisme, de l'occultisme, de l'astrologie qui vous tient. Le Christ ce soir veut briser cette chaîne, mais vous avez envie de me dire, Alain Choiquier, c'est pour jouer. C'est pour jouer qu'on fait tourner des tables. C'est pour jouer qu'on lit les lignes de la main. C'est pour jouer qu'on consulte l'horoscope. C'est pour jouer. Sur l'île de Borkum, en mer du Nord, par un bel après-midi de printemps, trois hommes se promenaient sur une plage à marée basse. Quand tout à coup leurs regards furent arrêtés par une chaîne, un câble téléphonique transatlantique maintenu au sol par de lourdes chaînes. Ils regardèrent ce câble, cette chaîne, quand tout à coup une idée leur vint. Et si nous essayons notre force à tour de rôle sur ce câble, pour voir lequel d'entre nous trois
le lèverait le plus haut, avec les pieds, en étant couché sur le sable. Sitôt dit, sitôt fait, l'un après l'autre, ils essayèrent leur force de cette manière-là. Quand tout à coup on entendit un cri, parce que le pied de l'un de ces hommes était passé dans un maillon de la chaîne, mais de manière très brutale. C'est un peu l'histoire de la bague qui vous prend un doigt pour refuser de vous le rendre ensuite. Et ce pied est resté prisonnier. Les deux amis mirent ensemble leur génie pour tenter de délivrer le troisième, rien à faire. La chaîne tenait bon. Elle tenait bon toujours, tandis qu'au loin commençait d'arriver la mer. Et ils furent pris de panique. Autant celui que la chaîne tenait que les autres. Que faire? Aller chercher du secours? Plus le temps. Et pour finir, la marée était là, les vagues étaient là, comme se moquant du drame qui se jouait. Et le jeu, pour commencer, avait tourné au drame. C'est pour jouer. C'est pour jouer, pour commencer, on a joué. Comme on peut jouer avec l'astrologie, le spiritisme, les sciences occultes. Comme on peut jouer avec quelques petits verres d'alcool. Comme on peut jouer avec quelques doses de haschich, de drogue. Puis un jour, c'est le pied dans la chaîne. Et quand le pied est dans la chaîne, alors les vagues du désespoir arrivent. Que d'hommes, de femmes, à l'heure qu'il est, en Suisse et de par le monde, ont un pied dans la chaîne. Vous avez peut-être un pied dans une chaîne. Mais quelle nouvelle, quelle nouvelle! Et c'est ma joie que de vous la dire. Le Christ a brisé nos chaînes. Il est venu mourir sur la croix. Et en mourant sur cette croix, il s'est employé à briser nos chaînes, à briser les forces du mal et de la corruption. Lui qui n'a jamais été asservi à ces puissances du mal et de la corruption. Il est venu pour nous rendre libres. Il l'a dit tout à l'heure dans le texte de Luc que je vous ai fait entendre. Je suis venu pour rendre libres les opprimés. Libres. Si je vous affranchis, vous êtes réellement libres. Et quelle joie de savoir qu'en Christ nous recouvrons une liberté totale, entière. Parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Voudriez-vous que le Christ vous rende libre ce soir? Voudriez-vous qu'il fasse de vous un homme nouveau, une femme nouvelle? Quelle que soit votre chaîne, il y a dans la croix du Christ toute la puissance nécessaire pour faire de vous un homme libre, une femme libre. Si seulement vous vouliez maintenant venir au Christ. Je vous y invite. Vous avez vu ce qui vous domine. Vous le savez. Vous venez au Christ avec cette chaîne qu'il a déjà brisée. Et vous repartez libre. Vous venez au Christ dans la repentance et dans la confiance. J'aimerais vous en donner l'occasion. Nous allons verser dans un moment de silence. Et dans ce moment de silence, je vais dire une prière que vous allez reprendre après moi, phrase après phrase. Mais vous la reprendrez silencieusement en vous. Puis ensuite, nous entendrons à nouveau la chorale et je reviendrai ici pour le mot de la fin. Prions. Nous savons ce soir quelle chaîne nous tient, quelle habitude mauvaise nous a servi. Ce soir, nous venons au Christ, vous venez au Christ avec cette chaîne, avec cette habitude, avec cette passion. Vous venez dans la repentance. Et vous dites, Seigneur, tu vois ma chaîne. Tu vois combien je voudrais en être dégagé, libéré. Mais je n'arrive pas. Seigneur, ce soir, j'ai compris que tu es venu pour mes chaînes, pour ma chaîne, mes habitudes, mes passions. Seigneur, je viens à toi tel que je suis pour tout te dire et surtout pour te dire de briser ma chaîne. Je te demande de me rendre libre. Je viens à toi dans la repentance et dans la foi. Je veux te faire confiance, Seigneur. J'ai entendu que sur la croix, tu t'es employé à briser toutes mes chaînes, toutes mes habitudes. Pour me rendre libre, ce soir, je veux te faire confiance. Je me jette dans tes bras. Seigneur, reçois-moi, accueille-moi, sauve-moi. Viens vers moi maintenant. Seigneur, aie pitié de moi. Rencontre-moi ce soir, je te prie. Seigneur, tu viens d'entendre ceux qui t'ont adressé ces quelques mots. Viens à leur rencontre. Seigneur, brise leurs chaînes. Visite-les de manière toute spéciale. Qu'à partir de ce soir, ils soient libres en Jésus-Christ. Et deviennent de nouvelles créatures en lui. Au nom de Jésus. Amen.